RLP.
C'est Maurice Meslier dans l'émission Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Chers amis, je ne vous dirai qu'une seule chose. Bonjour. Il pleut. Mais peut-être que quand vous écouterez mon émission, ça sera arrêté, la pluie. Elle se sera peut-être arrêtée. Ça peut arriver, ça, vous savez. J'arrive ici, pleut averse, je vais au studio, d'un seul coup, il pleut plus. Donc, ça serait dommage de vous annoncer des bêtises. Hein. Alors, bon, sur ce, j'ai retrouvé des vieux bouquins, enfin des vieux, pas si vieux que ça, toute une collection sur les poèmes. Les poèmes. Alors, par exemple, il y a à peu près une vingtaine de tomes. Et là, c'est la poésie moderniste. Alors, j'ai d'autres bouquins, la poésie baroque, la poésie machin, la poésie truc, la poésie chose, vous voyez. Et là, c'est la poésie moderniste. Alors, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais en écoutant, hein, enfin, moi, en le disant et vous en écoutant, on va peut-être se rendre compte de ce que veut dire la poésie moderniste. Hein. Alors, ici, on a, par exemple, Valéry, c'est un homme, hein, comme Paul Valéry, qui était lui-même... Poète. Valéry Larbeau. Il a un titre qui s'appelle Océan Indien. Océan Indien. Vous savez où c'est l'océan Indien, hein ? C'est juste à côté, là. Vous quittez Périgueux, vous tournez à droite, hop. Oui, à droite, hein, parce que si vous allez à gauche, c'est l'océan Atlantique. Là, alors là, l'océan Indien, c'est à droite, oui. Juste après la Méditerranée, je crois, oui. Hein. Mais vous voyez, c'est pas loin, hein. Bon. Oh, la nuit d'été tropicale, des atolls, d'étincellements émergents d'abîmes bleuâtres, du crucero flamboyant, je ne sais pas ce que c'est le crucero. Oh, c'est ça qui est dommage, c'est que je devrais le lire plusieurs fois avant de venir le réciter, et quand il y a des mots qui m'interrogent, notez, allez chercher sur Wiki Pied Plat, par exemple, hein, ou sur le Compte Rover, ou la rousse, hein. Et puis en même temps, ça me permettrait de vous dire, pendant que je récite le poème, de vous dire ce que ça veut dire. Mais j'ai pas le temps, je sais pas, dans la semaine, je fais beaucoup de choses, hein. Bon, je fais même la vaisselle, alors vous rendez compte, parce que ma machine à laver est morte, ouais. Ouais. Elle m'a quitté comme ça, sans me prévenir. Oh, je suis triste. Elle m'a même pas dit au revoir avant de partir. Bon... Allez, je vais continuer quand même. Oh, m'étendre sur le pont d'un grand navire, en route vers l'insulinde. Là aussi, l'insulinde, je ne sais pas où c'est. Merde, ils ne peuvent pas faire les astérix. Hein ? Nu, abéé à l'infini, béant sur moi. Ça, nu, c'est pas joli, ça, nu. Hein ? Bon, s'il est tout seul sur le bateau, c'est pas grave. Mon cœur serait content de ta main à presser. Ah, là, c'est autre chose, c'est qu'il n'est pas tout seul. Eh oui. Dans cette ombre en feu de nuit, éblouissante où je voudrais pouvoir s'envoler, sur les navires d'autrefois, tout pavoisés, dont la poupe était un palais aux 100 fenêtres dorées et qui surmontait un Himalaya de toile. Ce n'est pas l'Himalaya, c'est l'étoile, parce que c'est, en fait, c'est l'étoile du navire. Ce sont les, comment on appelle ça, les voiles, voilà. On m'avait pas ininterrompu cette palpitation des étoiles, cette vision de la création insensément, silencieuse, sur la tête, tout déroulé, le firmament. Je désire un matin de printemps, un peu grisâtre, dans la chambre d'hôtel, un peu grisâtre comme ce matin, par exemple, vous voyez, hein. Vous voyez que des fois, ça rejoint la réalité, quand même. Hein. Bon, ce qu'il aurait fait du soleil, j'aurais été obligé de changer le texte du poème. Hein. Là, un peu de soleil, j'aurais dit, non, bon, on n'a pas le droit de faire ça dans des poètes qui ont écrit ça avec toute leur sueur, leur talent. Hein. Ouais. Comme moi, d'ailleurs. Mais moi, je transpire pas, moi. Je pue des pieds, mais je transpire pas. C'est pas possible, normalement. Il faut transpirer des pieds pour puer des pieds. Eh ben non, moi, c'est pas pareil, c'est autrement. Bon, bon allez, bon, arrête de déconner, mes livres. La fenêtre ouverte au coin de la rue de Noailles. Ça, c'est à Paris, ça, à tous les coups. À l'air frais. Et voilà, là-bas, 5 heures, pas encore le tramway. Le calme, vieux port, les bateaux du château d'If. Voilà. Hein. C'est beau, hein. Un peu concon, mais c'est beau quand même. Hein. Bon. Il va être mort, le mec, je peux y aller. Hein. Valéry Larbeau, à mon avis, il est plus vivant. Hein. Bon. C'est pas grave, allez. Alors, tiens, Claude Mercutio. Alors, je l'ai vu, Claude Mercutio, il faisait une soirée poésie à Saint-Albert, une fois. Il était là, avec tout son talent, parce qu'il était talentueux. Et alors, il était devenu copain avec Jeannot Boussuge, figurez-vous. Parce que, bon, c'était deux êtres un peu à part, ils se rejoignent toujours, ces gens-là. Et alors là, donc, ce fut écrit en 2000, à 23h10. Alors, je ne sais pas si on s'est copié ou si c'est vraiment un hasard, mais il fait comme moi, il met le jour de la semaine, dimanche, le 9-4, 2000, 23h10. Et moi, je fais pareil, sauf que moi, des fois, je mets le lieu. Parce que si je suis en Haïti ou au Maroc, je ne sais pas, moi, à Chamiers, par exemple, ou à, hein, je mets le lieu, c'est quand même important que vous sachiez tout ça. Hein. Parce que vous dites, donc à cette heure-ci, il écrivait ce poème-là. Ah, mais c'est intéressant, cette démarche. Oh, il faut que j'analyse ce phénomène, parce que derrière ça, il doit bien y avoir quelque chose d'intéressant pour qu'il le fasse à tel jour, telle heure, et au tel endroit. Ben après, c'est à vous de chercher, hein. Moi, je ne vais pas vous aider, là. Bon. Allez, donc Mercutio, le saut dans le néant. Oui, je mourrais peut-être au détour d'un poème, le crayon sur la page, tombé d'une main faible dans un petit théâtre au public clairsemé, l'éclairage blafard d'un plateau exigu. Ma voix se brisera ainsi qu'une césure au beau milieu de verre, du verre. Mais du verre, pas du verre de vin, hein, du verre de poème, quoi. Hein. C'est marrant parce qu'un verre, quand c'est d'un poème, on met un S. Et quand c'est un lombric, on ne met pas d'S. Et dans un ralenti, une chute amortie, la vie m'aura quitté avec l'effondrement. Lesquels spectateurs resteront incrédules et n'oseront applaudir devant la perception de la réalité. Brutal vent de panique, mais bientôt recouvert par l'obscène sirène d'un secours trop tardif. Le poète est mort. 1000 morts quotidiennes. Ou de trop peu d'amour. Depuis longtemps déjà, au cercueil de l'oubli ou de l'indifférence, son cri était muet et nul ne l'a perçu. Il ne l'a pas aperçu, hein, il l'a entendu. Hein. Bon, mais ça, vous avez compris. Bon, c'est parce que c'est la phrase qui dit que nul ne l'a perçu. Hein. Bon. Mais nul ne l'a perçu non plus, peut-être que personne ne l'a vu. Apparemment si, puisqu'il y avait des spectateurs. Bon. J'essaie de vous dire un petit peu ce que je ressens, moi, en lisant mon texte. Hein. C'est pour ça que des fois, j'interviens. C'est normal, hein. Vous feriez peut-être pareil, hein. Eh oui. Et au fait, est-ce que vous avez souhaité la Saint-Valentin à vos femmes, à vos maris, à vos amants, à vos concubins, à vos cubiténaires, par exemple, hein. Quoi, Edwige ? Tu m'as pas souhaité la Saint-Valentin, figure-toi. T'as pas honte, quand même ? Tu savais qu'on s'aimait tous les deux, hein ? Même s'il y a... 15 000 kilomètres entre nous, enfin peut-être pas, non, ça doit faire 10 000 kilomètres à peu près. Oui, au moins 10 000. Faudrait que je regarde sur la carte. Mais au moins 10 000 kilomètres qui nous séparent, tu te rends compte ? J'ai jamais réussi à tendre mes bras aussi loin pour t'enlacer, tu te rends compte ? Et je pense que j'y arriverai jamais. Bon allez, on va changer de conversation. Tu m'écoutes ? Bon, ça va. Si tu peux quand même me souhaiter la Saint-Valentin, même si c'est fini, hein, pourquoi pas, hein. Bon, c'était vendredi dernier, hein. Mais bon, c'était... Tu sais, la Saint-Valentin, c'est toute l'année, hein. Oh, moi, c'est que... Et moi, puisque je t'aime pas que le jour de la Saint-Valentin, moi. Je t'aime 365 jours sur 365 jours. Hein ? Eh oui. Et si je pouvais t'aimer un siècle, tu vois. Genre un siècle d'amour entre nous. Oh, qu'est-ce que ça serait beau. D'autant plus que j'ai 80 balais, donc encore 20 ans, tu vois. Ça fera un siècle. Moi, quand je suis sorti du ventre de ma mère, je ne te connaissais pas. Hein. Bon, d'abord, tu n'étais même pas encore né, toi. Bon, allez, on va changer. Alors, je vais vous faire une belle surprise aujourd'hui. On va faire que du Patrick Hoche. Vous savez, ce chanteur exceptionnel qui habite Périgueux. Allez, quand il y a un concert de Patrick Hoche, allez-y tout de suite, louez vite votre billet. Prenez vite votre billet parce que la salle est pleine. Il y en a qui sont dans la rue, ils sont obligés de mettre des micros dans la rue. Vous voyez ? Comme c'est les grands chanteurs. Moi, une fois, j'ai été à Place de la Nation, écouter Johnny Hallyday et puis je ne sais plus quel autre chanteur. Vous auriez vu ça, ils ont mis des micros partout parce qu'on les voyait presque plus sur scène, tellement il y avait du monde. Hein. Eh bien là, faites gaffe parce que ça risque d'être pareil. Hein. Allez, on y va. Alors le premier titre, c'est petits enfants.
Dans la nuit, les petits enfants se transforment en éléphants. D'autres vont dans le brouillard et deviennent des léopards. D'autres mettent sur le dos des vêtements gris et chauds et sortent pour s'amuser comme des chimpanzés. Sans réveiller les parents, ils marchent tout doucement et s'en vont sans faire claquer la porte d'entrée. Les adultes endormis se reposent dans le lit. Des journées de solitude et d'inquiétude. Dans la nuit, les petits enfants se transforment en éléphants, rougissent dans le noir comme des jaguars. Ceux qui ne se transforment pas suivent pas à pas et regardent devant, derrière pour ne pas se perdre. Sans réveiller les parents, ils marchent tout doucement, traverse dans le noir de longs couloirs. Les adultes endormis se reposent dans le lit de toutes leurs habitudes, leurs inquiétudes. Dans la nuit, les petits enfants ont des rêves d'éléphants, animaux dans le ciel. Les adultes s'endormis se reposent dans le lit de leur chambre mystérieuse et silencieuse.
Et bien voilà, alors donc c'est la première d'une grande série pour notre émission Mêliez-vous de ce qui vous regarde pas. Non, de ce qui vous regarde, pardon. Ben c'est bien si mêliez-vous de ce qui vous regarde pas, hein. Ça veut dire que vous avez le droit de vous mêliez. Alors, Jean-Claude Lemoine, qui est un humble membre du Club des Hydropathes, depuis sa création pratiquement, puisqu'il est même l'un des créateurs. Je me souviens. Il y avait un monsieur que vous connaissez très bien, qui passe de temps en temps à l'antenne, qui s'appelle Eduardo Leone. Il avait fait la connaissance de Jean-Claude Lemoine. Et puis, ils avaient été chercher Jeannot Boussuche. Et tous les trois, ils avaient envie de créer un club. Voilà. On ne savait pas encore comment ça allait s'appeler. Hein. Et puis, il y a Jeannot, mon grand copain, qui dit « Ouais, mais on ne peut pas faire un club sans Mélier. » Alors là, c'est là qu'il a dit « Mêliez-vous de ce qui vous regarde. » Non, ça ne revient pas de lui, ça vient de moi. Et dans le coup, moi, il m'a appelé, on s'est réunis et tout, voilà. Et puis, on a commencé à faire nos soirées poésie. Et puis, on s'est dit, bon, il va peut-être falloir qu'on dépose nos statuts à la préfecture pour avoir des subventions, quoi, mais pour créer des événements. Bon, on cotisait, hein, je ne sais plus combien, c'était 10 euros par an, hein, à l'époque. Maintenant, on ne cotise plus, maintenant. On ne demande plus de subventions, on ne cotise plus. On fait avec ce qu'on a. C'est derrière moi, avec mes petits doigts sur mon écran, avec mon petit clavier, ma petite souris, je fais le journal, voilà, ouais. Depuis 24 ans, ouais. Et ça marche toujours, ouais. Et j'ai même augmenté la pagination et le nombre de pages en couleur. Vous voyez, en vieillissant, on se bonifie. On va de mieux en mieux. Hein. Bon, des fois, c'est le corps qui ne suit pas tout à fait, mais du moment que l'esprit, du moment que l'intelligence naturelle, humaine, fonctionne, c'est le principal. Ne me parlez pas d'intelligence artificielle, hein, parce que je vous préviens. Attention, Edwige, ne me parle pas de ce truc à la con, là. Hein. Bon. Alors, sauf si c'est pour la science, la médecine et la technologie. Mais pas pour les arts, pas pour la musique, pas pour l'écriture, pas pour la photo, pas pour la peinture. Non, mais on n'a pas besoin de ces gens-là pour faire ça. On n'a pas besoin d'un espèce de robot à la con, là, qui ne sait même pas manger des frites. Hein. Bon, allez, on en reparlera, vous inquiétez pas, on en reparlera. Parce que moi, j'ai peur, c'est qu'un jour, l'intelligence artificielle me remplace au micro. Ouais. Et ça, alors peut-être que quand je serai mort, hein, mais bon, je n'ai pas l'intention de mourir maintenant. Rien que pour l'emmerder, l'intelligence artificielle. Hein. Alors, donc je disais Jean-Claude Lemoine. Donc vous savez maintenant qui il est, ce qu'il a fait. Tout. Il a quand même 90 ans, je crois. Oui, il a quand même 90 ans. Et c'est qu'on a des vieux de la vieille chez nous, hein. Il y en a même, il va bientôt avoir 99 ans, vous vous rendez compte? Mais c'est ça les poètes, au final. Un poète, il n'est pas poète en naissant à 2 ou 3 ans, ça marche pas ça. Bon, j'ai vu des poètes qui avaient 8 ans, 9 ans, oui, c'est arrivé ça. Hein. Mais vraiment, c'était exceptionnel, surtout depuis que les smartphones existent. Là, c'est terminé, il n'y a plus d'enfants poètes. Il y a même des fois des vieux cons qui sont même plus poètes parce qu'ils ont des smartphones aussi. Moi, vous savez ce que c'est, mon smartphone? Vous voyez, tout à l'heure, j'attendais que la boutique, elle ouvre, c'est-à-dire la radio. Je restais dans ma voiture. Eh bien, mon smartphone, c'est les mots croisés. Et ça marche bien, hein? Oh, et qu'est-ce que c'est calme! Oh, incroyable! J'ai pas besoin de monter le son. Non, ça sert à rien. Alors, par contre, vous êtes obligé d'avoir un crayon et une gomme. Ouais. Bon. Alors que sur le smartphone, vous avez juste vos petits doigts, c'est tout. Et alors, moi, c'est le problème, c'est que je peux pas faire du smartphone parce que j'ai des gros doigts. Et à chaque fois que je tape sur une lettre, j'en tape sur deux. Alors, il faut que je choisisse. Par exemple, si c'est AM, il faut que je m'arrange. Mais le A, il n'est pas à côté du M. Vous voyez? C'est un gros problème, ça. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais non, je n'ai pas l'intention de faire du smartphone comme les jeunes cons, là. Ils ne savent plus lire, ils ne savent plus écrire, ils ne savent plus rien faire, maintenant. Smartphone, voilà. Ils ont que ça dans la bouche. Hein? Et des chewing-gums, c'est tout. Smartphone et chewing-gum. Vous vous rendez compte? Oh, incroyable. Bon, allez. Ça s'appelle Dans ma tête. Et il a écrit ça en 1995. Je ne regarde pas ta photographie. Je n'ai pas ta photographie. Je n'aime pas les photographies. La photo nous fige avant d'être figée. La boîte à photos vampire aspire votre substance, la dévitalise. Plutôt que papier glacé, à l'impalpable chimie, plutôt que millefeuille, écorné dans un boîtier, ordonné dans un album, comme croix au cimetière. Plutôt, j'ai dans ma tête, sur les selles de mes plaques sensibles, instantanément quand je t'appelle, dans ma tête, la pluralité de tes regards, les saisons de tes yeux, les marées de tes épaules. J'ai les tons de ta voix, les harmonies de tes chants. J'ai apparition fuyante, l'une chasse l'autre, les métamorphoses palpitantes de ton être, enchâssées dans ma mémoire. C'est pas beau, ça, hein? Alors, je suis pas trop d'accord avec lui, parce que moi, je suis photographe, en plus. Hein. En plus d'être beau parleur à la radio, je suis... Alors, beau parleur, c'est pareil que c'est les perroquets, hein? On dit toujours un perroquet, c'est un beau parleur. Bon. Mais moi, j'ai regardé, j'ai pas de plume. Donc, je suis pas un perroquet. Attendez, il faut que je regarde quand même. Je vais voir derrière moi, des fois, il n'y aurait pas une plume qui aurait poussé. Ah ben non! Mais non, mon petit-fils, il me l'a arraché ce matin pour aller à l'école avec. D'ailleurs, je vois pas ce qu'il pouvait faire avec une plume. Parce que maintenant, ils ont des stylos. Hein. Bon, une plume. Moi, je me souviens écrire à la plume dans un encrier avec de l'encre noire. Ça, je me souviens de ça. Je l'ai fait, moi. Enfin, c'était pas une plume, hein. C'était, vous savez, c'est porte-plume avec une plume sergent-major, par exemple. Vous voyez, hein. À l'école, et on avait l'encrier qui était dans un trou sur le bureau, et tous les matins, on fallait le nettoyer et mettre de l'encre nouvelle, parce qu'avant qu'elle sèche, voilà. Et là, on revenait des fois avec la blouse grise, pleine de taches d'encre. Qu'est-ce qu'on se faisait engueuler par les parents? Oh, incroyable! On trouvait toujours une excuse. Bah ouais, mais c'est le gars qui était à ma table qui l'a renversé sur le... Parce qu'on était deux par bureau, hein, par... Oui, on appelait ça un bureau, oui, d'accord. Et voilà, donc voilà, c'est... Bon, enfin, bon. Allez, bon, pour la peine, on va passer Patrick Hoche avec la vache d'un garçon étant en train de traire. Oh, c'est beau, ça, hein.
Un chien aboyait, une dame qui passait lui a dit de se taire. Un chat est rentré dans la maison, une vache qu'un garçon était en train de traire. Pleurait à cause du petit veau qu'un boucher ce matin tôt avait mis dans sa bétaillère. Le chat a bu un peu de ce lait, quelque part dans son palais, le goût de la souris grise. Il avait croqué pour son 4 heures, lui donnait des hauts le cœur, ça c'était une bêtise. qui gâchait une belle journée. Il est parti déjeuner aux chauds sa friandise. Le battement des ailes, le papillon dans le bec d'un oisillon, caché sous la glycine. Tu l'avais taillé au sécateur avant de briser mon cœur. J'ai cherché dans la cuisine un vase pour y mettre quelques fleurs. Elles ont entrouvert leur cœur pour qu'une abeille y butine. J'ai qu'un mange plus petit que soi, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai coupé sous la cellophane le petit bout du petit cochon avec le coin du torchon. J'ai essuyé mes larmes en regardant dans une émission une gazelle qu'un lion mangeait dans la savane. Et longtemps, longtemps, je t'ai attendu, tu n'es jamais revenu. Qu'est-ce que j'ai pu te faire? Le charron renaît dans la maison et la vache qu'un garçon était en train de traire pleurait à cause du petit veau qu'un boucher ce matin tôt avait mis dans sa bétaille.
Et voilà. Bon, vous penserez peut-être encore une avant la fin de l'émission. Hein. Ça va dépendre de mon bavardage et de, comment on appelle ça, de mes improvisations. Ouais. Parce que vous avez vu, j'improvise beaucoup. Hein. Il n'y a pas que des textes de machin ou de trucs moches. Il y a aussi des petites folies comme ça de Momo. Alors vous avez le choix entre mêliez-vous de ce qui vous regarde. Momo, Maurice. Ou Méliès. Méliès, bah oui, Méliès, c'est mon nom. Bon. Alors, je n'ai pas encore lu un de mes poèmes à moi. C'est quand même, c'est quand même fort, ça. Alors, j'ai pris mon petit bouquin que j'ai écrit sur ce que j'ai vu en Haïti. Hein, donc, il remonte à loin, hein, ce bouquin, déjà. Hein. Oh, ça, c'est plutôt jeune, hein, ça. 2002, vous voyez. 2002. Et je vais vous lire « Vol de naïfs ». Alors, là-bas, les naïfs, ce sont des peintres. Vous voyez, alors il y a énormément de peintres, c'est vraiment une institution nationale en Haïti. En Haïti, mais aussi à Santo Domingo, donc l'autre pays qui fait partie de la même île. Hein. D'ailleurs, souvent, on les trouve plutôt à Santo Domingo qu'en Haïti. Alors, ce fut écrit le 23 février, et à 23h05, heure locale, bien sûr, hein, naturellement. C'est écrit « Retour au-dessus de l'Atlantique », c'est-à-dire je repartais en France. Hein. Et bon, comme c'était pas terrible parce qu'il y avait la télé devant mon siège, j'ai préféré écrire que de regarder les conneries à la télé. Hein. Bon. Les naïfs encore chauds du matin, orphelins d'un cadre de bois exotique le soir. Alors je vous expliquerai ça, c'est parce que j'en ai acheté plusieurs, dont celui qui est sur le livre là. Et pour pas que ça prenne de place, on a enlevé les cadres. Et en arrivant chez moi, j'ai refait des cadres pour les remettre en cadre, vous voyez. C'était plus facile. On les mettait en rouleau, vous pouviez les mettre dans la valise. Ils ne s'abîmaient pas comme ça, vous voyez. Alors qu'avec les cadres, ils ne seraient pas rentrés dans la valise, en fait. Hein. Voilà. Traversaient une mer sans en connaître leur destination. Ben oui, ils ne savaient pas où ils allaient. Hein. Roulés par une main, les unes contre les autres, les femmes du marché de Port-au-Prince subissaient le froid d'une soute à ragots volants. Les peintres haïtiens de Boca Chica. Boca Chica, c'est du côté espagnol, hein, c'est pas du côté Haïti. Nourrissaient 1000 bouches de femmes et d'enfants de Jérémiades. Jérémiades, c'est de Jérémie, naturellement. En cerf-volant avorté par le vent. Le décalage désordonné en plein vol de vergogne remettait les pendus à l'heure en nous éloignant de la corde raide tendue par cette misère. La nuit poussa le jour par un hublot vantard sans se douter qu'il reviendra plus tôt que le crépuscule le prévoyait. Voilà. Donc, vous voyez, alors, c'était... J'en ai pas mal, hein, j'en ai peut-être 5 ou 6. J'ai même ramené des bois flottants. Alors, vous voyez, par exemple, des noyaux de mangue qui prenaient une certaine patine parce qu'ils flottaient dans la mer, hein, bien sûr, avec le sel, tout ça. Et des bois termités. Mais c'est pareil, ils étaient dans l'eau, donc il n'y avait plus de termites. et ça faisait des sacrés, des beaux dessins. J'en ai fait des petites statuettes, vous voyez. Et alors, le pire, c'est que j'ai pu ramener tout ça, puisque... mais j'avais ramené des citrons verts. Eh bien, ils me les ont retirés à la police de Santo Domingo. Je n'avais pas le droit d'amener des aliments frais ou des végétaux. Par contre, les bouts de bois et les galets, enfin, pas les galets, mais les bouts de bois flottants, ils n'ont rien dit. Bon, ils se sont dit comme ça, ils nettoient la mer. Bon, c'est pas grave, allez. Alors, je les ai toujours. Tiens, un petit Victor Hugo, hein, qu'est-ce que ça vous dirait? Vous savez, j'ai un vieux bouquin de Victor Hugo qui est Ode et balades, les orientales, ça s'appelle. Alors, je ne sais plus de quelle époque il est. Je ne sais pas s'ils sont amusés à mettre la date là-dessus. Hein. Non. Par contre, Nelson, éditeur, rue Saint-Jacques à Paris. Donc, c'est pas d'aujourd'hui, ça, je peux vous dire. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et ça s'appelle Écoute-moi, Madeleine. Bah, être juste profitant aussi pour m'écouter. Hein. Bon. Écoute-moi, Madeleine. L'hiver a quitté la plaine. Qu'hier, il glaçait encore. Viens dans ces bois d'où ma suite se retire au loin, conduite par des sons errants du corps. Du corps de chasse, hein, bon. Viens, on dirait, Madeleine, que le printemps, dont l'haleine donne aux roses leur couleur, a cette nuit pour te plaire, secoué sur la bruyère, sa robe pleine de fleurs. Oh, si j'étais aux Madeleines, l'agneau dont la blanche veine se démêle sous tes doigts, et si l'oiseau qui passe et que poursuit dans l'espace un doux appel de ta voix. Si j'étais aux Madeleines, l'ermite de Tombelaine, alors Tombelaine en un seul mot, bon. Tombe comme le mot tomber, laine comme la laine, voilà. Quand ta bouche à son oreille de tes péchés de la veille, livre l'aveu virginal. Si j'avais, ô Madeleine, l'œil d'une nocturne phalène, lorsqu'au sommeil tu te rends et que son aide indiscrète de ta cellule secrète bat les vitraux transparents. C'est beau, ça. Hein, et c'est plein de sous-entendus. Hein. Bah ouais, mais bon, c'est du Victor Hugo. Hein, bon. Quand ton sein, ô Madeleine, sort du corset de baleine. Ouais, bah, ils avaient des baleines au corset à l'époque. Hein. Ça se fait plus maintenant. Bah non, ça fait mal sous les seins, vous voyez. Alors, ça, il paraît que ça les remonte un petit peu, mais bon, il n'y en a qui n'ont pas besoin de ça. Bon, hein. Libre, enfin, de velours noir, quand de peur de te voir nu, tu jettes, fille ingénue, ta robe sur ton miroir. Attention, ça devient sérieux, là. Si tu voulais, Madeleine, ta demeure serait pleine de pages et de vassaux, et ton splendide oratoire déborderait sous la moire, la pierre de ses arceaux. Si tu voulais, Madeleine, au lieu de la marjolaine qui part ton chaperon, tu porterais une couronne de comtesse ou de baronne dont la perle est le fleuron. Si tu voulais, Madeleine, je te ferais châtelaine. Je suis le comte Roger. Quitte pour moi ces chaumières, à moins que tu préfères que je fasse berger. C'est pas beau, ça. Il était prêt à venir de comte à faire berger, rien que pour Madeleine. Hein? C'est quand même gentil, ça. J'ai connu une Madeleine, vous vous souvenez pas? Hein? Ouais, il y avait une Madeleine. Mais elle venait pas, comme chez Jacques Brel. Elle voulait pas venir. Alors maintenant, j'ai une Edwige. Alors elle est exigeante, elle exige. Vous voyez, c'est difficile de prononcer... exige, hein, quand on s'appelle exige. Oh là là! Et puis alors moi, bon, je parle très mal, hein, vous en êtes aperçu, hein, à l'antenne. Hein. Je parle mal, hein, quand même. Bon, allez, tiens, on va se prendre encore un petit... Ah ben, on peut rien se prendre du tout, parce que c'est fini, mon émission. Qu'est-ce que je suis bavard. Bon, Edwige, n'oublie pas que je vais revenir à l'antenne, hein, bientôt. Bon. Et puis, pour la Saint-Valentin, t'aurais pu quand même... m'envoyer, je sais pas, moi, une petite bouteille de gin tonic, par exemple. Hein. Bon, allez, je vous aime tous et à bientôt.